France Culture.
Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. En réponse à la Maison-Blanche qui minimise la faille de sécurité, le magazine The Atlantic publie les informations dont son rédacteur en chef a été le destinataire accidentel, les horaires de frappe prévus au Yémen et les armements employés. Nous irons aux États-Unis dans un instant. Le président ukrainien est à Paris. Volodymyr Zelensky doit rencontrer Emmanuel Macron ce soir. Avant un sommet demain sur le soutien européen à l'Ukraine, Virginie Pironon nous précisera les enjeux de cette visite. Au troisième jour de son procès pour agression sexuelle, de nouveaux témoignages accablent Gérard Depardieu. Mais son amie Fanny Ardant lui apporte son soutien, compte rendu d'audience de Gaëlle Joly. Enfin, avec Diane Berger, nous évoquerons le management par algorithme auquel sont soumis les livreurs travaillant pour les plateformes de livraison de repas et l'impact que ce management a sur leur santé. La Maison-Blanche en rage depuis lundi, depuis que le rédacteur en chef du magazine The Atlantic a révélé avoir été invité, par erreur, dans un groupe de discussion hautement confidentiel en présence de très hauts responsables. La fuite spectaculaire a été qualifiée de simple pépin par Donald Trump et son administration a assuré que ces échanges n'étaient pas protégés par le secret défense. Le journal les a donc pris au mot et a publié les copies d'écran de ces discussions, Loïc Loury.
Jeffrey Goldberg, jusque-là, s'était refusé à publier des informations a priori sensibles, c'est désormais chose faite. Façon de répondre aux tentatives de l'administration, écrit son journal, de minimiser l'affaire. Dans ce second article, The Atlantic dévoile donc l'intégralité des échanges menés sur ce fameux groupe de discussion, et en particulier les messages de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Dans un style télégraphique, il partage les horaires précis des raids menés contre les outils, parfois le type d'avions et d'armes employés. L'un de ses collègues, le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, évoque quand même une cible de ces attaques, un homme qui rejoignait sa petite amie et dont l'immeuble a été bombardé. L'administration, elle, a réagi sur le même ton. Ce n'était donc pas des plans de guerre, affirme la Maison-Blanche. Ces révélations étaient survendues, dit le vice-président J.D. Vance. Mais l'humiliation est totale et elle confirme aussi l'inexpérience d'un certain nombre de hauts responsables de l'entourage de Donald Trump, notamment Pete Hegseth, un ancien présentateur de Fox News, désormais à la tête du Pentagone.
Loïc Loury à New York. L'avenir politique de Jair Bolsonaro semble compromis. La Cour suprême du Brésil a décidé d'ouvrir un procès contre l'ancien président d'extrême droite pour projet présumé de coup d'État. Jair Bolsonaro, lui, se dit victime de la plus grande persécution politique ou judiciaire de l'histoire du Brésil. Nous reviendrons à 19h sur la décision de la Cour suprême, décision historique prise à l'unanimité. Si la mesure entrait en vigueur, ce serait une première dans l'Union européenne. Sur fond d'ascension de l'extrême droite, le nouveau gouvernement autrichien annonce son intention de mettre fin au regroupement familial des réfugiés. Un décret va être prochainement publié en ce sens. L'exécutif dit vouloir protéger l'Autriche face à la saturation des capacités d'accueil. Les précisions d'Isorias, notre correspondante à Vienne.
Cette mesure était discutée depuis plusieurs jours en Autriche. Elle a finalement été annoncée aujourd'hui en Conseil des ministres, moins d'un mois après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Une coalition inédite entre conservateurs, sociaux-démocrates et libéraux. Un décret pour suspendre le regroupement familial des réfugiés va être publié. Et d'ici mai, cette mesure sera une réalité, a expliqué la ministre conservatrice de l'intégration Claudia Placolm. Le gouvernement dit avoir observé une nette hausse des arrivées de membres de la famille de personnes ayant obtenu l'asile. Ils étaient près de 9300 en 2023 et 7800 l'an dernier. La coalition fait valoir que les systèmes d'éducation et de santé notamment sont surchargés. Les chiffres actuels montrent toutefois que le regroupement familial a déjà été fortement réduit, notamment parce qu'il a déjà été suspendu pour les réfugiés syriens après la chute de Bachar al-Assad. Certains estiment par ailleurs qu'une telle mesure pourrait être contraire aux droits de l'Union européenne.
Isorias, correspondante de France Culture en Autriche. Volodymyr Zelensky sera l'invité de France 2 ce soir à 21h. Le président ukrainien est à Paris. Il doit dans un premier temps s'entretenir avec son homologue Emmanuel Macron avant le sommet organisé demain dans la capitale. Sommet des pays de la coalition des volontaires prêts à donner à l'Ukraine des garanties de sécurité dans l'hypothèse d'un arrêt des combats. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir Aurélie.
Volodymyr Zelensky espère justement obtenir des gages de la part des pays européens.
Oui, Kiev espère que le soutien européen, presque unanime politiquement depuis 3 ans, va changer de dimension sur le plan militaire. Alors demain, à Paris, se réunira à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne, vous l'avez dit, cette coalition des volontaires, une trentaine de délégations au total, pays européens et Canada, qui discuteront donc de leur contribution à une solution durable en Ukraine. Seront examinées, entre autres, la question du cessez-le-feu et la potentielle mise en place d'une force dite, je cite, de réassurance pour venir en soutien à l'armée ukrainienne. Combien d'hommes? Quel matériel faut-il? Des avions pour la police du ciel? C'est ce qu'attend de savoir, entre autres, Volodymyr Zelensky, qui est à la recherche d'une paix solide, pas d'un simple cessez-le-feu qui permettrait à la Russie de reconstituer ses forces. Alors que les négociations de ces derniers jours et les balbutiements autour d'un projet de cessez-le-feu semblent déjà montrer leurs limites. En mer Noire, la partie russe pose des conditions, comme la fin de sanctions financières, et que l'accord censé avoir été trouvé depuis le 18 mars sur les infrastructures énergétiques n'est pas respecté. L'Ukraine accuse aujourd'hui la Russie d'avoir mené au moins 8 attaques depuis sa supposée mise en œuvre. Et la nuit dernière, une nouvelle attaque de drone a fait au moins 4 morts et une demi-douzaine de blessés. La preuve, selon Volodymyr Zelensky, que la Russie ne veut pas d'une véritable paix.
Virginie Pironon, c'est du jamais vu. Depuis la création d'Israël, il y a près de 80 ans, aucun représentant de l'extrême droite française n'avait été accueilli officiellement dans l'État hébreu. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est rendu aujourd'hui à Jérusalem. Il est allé à Yad Vashem, le lieu de mémoire des victimes de la Shoah. Il a aussi fait le déplacement avec Marion Maréchal sur le site du festival Nova et d'un kibboutz dont des habitants ont été massacrés le 7 octobre 2023 par des terroristes du Hamas. C'est un ministre israélien qui a rendu cette visite possible, Thibault Lefèvre. Il s'appelle Amiraï Shikli.
Amiraï Shikli, c'est le ministre de la diaspora de l'actuel gouvernement d'extrême droite en Israël et c'est un des éléments les plus radicaux du Likoud, le parti du premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors il n'est pas vraiment religieux, ni suprémaciste ou homophobe comme d'autres ministres de la coalition. On pourrait plutôt le qualifier de sioniste identitaire, un homme qui se bat pour que le peuple juif assume l'exercice de sa souveraineté sur des territoires qu'il a perdus avec le temps. Et c'est sur cette base-là, identitaire donc, mais aussi sur son combat contre l'islamisme radical, qu'il s'est rapproché des extrêmes droites souverainistes européennes. Yigal Palmor est un ancien diplomate israélien et il nous aide à mieux cerner le personnage.
Amiraï Shikli est un parachuté dans la politique. Il n'en fait qu'à sa tête, ce n'est pas la première fois. Jordan Bardella, Marion Maréchal et les autres personnalités de l'extrême droite européenne n'ont pas été invités par le gouvernement, mais par un ministre du gouvernement. Il mène sa propre politique et c'est pour ça qu'il est très loin de faire l'unanimité dans le pays.
Amiraï Shikli aimerait étendre ses alliances avec l'extrême droite et créer des ponts avec notamment l'AFD en Allemagne ou le FPE autrichien. Mais pour le moment, il y a des réticences au sein même du gouvernement israélien. Ces partis n'ayant jamais émis l'intention de rompre clairement avec leurs racines antisémites.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour France Culture. Au troisième jour de son procès pour des agressions sexuelles présumées sur 2 femmes en 2021, Gérard Depardieu a été accablé aujourd'hui par 2 nouveaux témoignages, mais il a continué de nier avoir touché les plaignantes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Vous suivez l'audience, Gaëlle Joly, l'actrice Fanny Ardant est venue et a tenu à soutenir son amie de longue date.
Oui, et c'est avec un immense sourire adressé à Gérard Depardieu que Fanny Ardant est entrée dans la salle d'un pas décidé dans sa robe noire cintrée. De sa voix suave, l'actrice a pris la parole. Je sais qu'on est là pour chercher la vérité, mais je vais élargir le débat. Oui, Gérard a une grande gueule. Oui, Gérard dit des grossièretés, mais Gérard est un génie. Il a donné toute sa vie à ce métier, c'est un risque. Et sans ce risque, on n'est plus un artiste. La comédienne poursuit. Je sais que la société a changé, que les repères ne sont plus les mêmes. Il y a des choses qu'on tolère, qui ne sont plus tolérables, mais la peur ne doit pas être une façon de faire obéir les citoyens et ne doit pas servir la morale, insiste Fanny Ardant. Avant de conclure, je ne crois qu'à la main tendue au pardon, à l'amitié et à l'amour.
Fanny Ardant était présente sur le tournage des Volets Verts. Elle a donc tenu, Gaëlle, à revenir sur les faits.
Oui, nous ne sommes pas là pour faire de la morale, nous sommes là pour faire du droit, recadre le président. Avez-vous entendu parler d'agression sexuelle sur le tournage ? J'ai entendu des cris, mais je n'ai jamais assisté à un geste que j'aurais trouvé choquant. Moi-même, je suis une femme, j'ai connu des choses comme ça. Je me suis battue, j'ai balancé des claques, j'ai dit des insultes, mais je n'ai pas assisté à ça, répond l'actrice. Fanny Ardant se retourne et s'approche de Gérard Depardieu, saisit son visage dans ses mains et l'embrasse sur les deux joues.
Gaëlle Joly, au Palais de Justice de Paris. L'examen de la loi sur la fin de vie pourrait être encore repoussé. Le gouvernement doit trancher d'ici la fin de la semaine. Il est embarrassé, il cherche une place pour un autre texte, la loi pour lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, qui a été adoptée au Sénat et prévoit, entre beaucoup d'autres choses, la réintroduction de certains néonicotinoïdes. Le ministère des Relations avec le Parlement a proposé d'inscrire ce texte à l'agenda la semaine du 28 avril, mais ça aurait pour conséquence de décaler les textes fin de vie soins palliatifs prévus mi-mai. Bonsoir Rosélie Lafarge.
Bonsoir.
L'exécutif doit, si l'on peut dire, arbitrer le match qu'ont entamé les partisans de chacun des textes.
Oui, les organisations agricoles se mobilisent, les défenseurs de la loi pour lever les contraintes aussi donnent de la voix. Encore cet après-midi à l'Assemblée, un député LR, Guillaume Lepers, interpelle le gouvernement.
Combien de faillites d'exploitation, combien de suicides d'agriculteurs et demain, combien de pénuries faudra-t-il que vous preniez vos responsabilités ? Pourquoi retardez-vous l'inscription du texte du sénateur Duplomb, si essentiel pour nos agriculteurs.
L'élu de droite reçoit en réponse le soutien de son ancienne collègue, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
Votre niveau d'impatience, je le connais, je le comprends et je le partage. Je forme le même vœu que vous, à savoir que nous étudions le plus vite possible ce texte qui est très attendu des agriculteurs.
Sauf que la loi fin de vie, elle aussi, est très attendue. Victime collatérale de la dissolution, elle a depuis été scindée en deux textes, souhait du Premier ministre, ouvertement réservé sur l'aide à mourir. Alors ce nouveau report envisagé a du mal à passer jusqu'au sein du bloc gouvernemental. La porte-parole du groupe Modem, Perrine Goulet.
Notre président s'est opposé au décalage de la loi fin de vie. Ça fait déjà plus d'un an que ce texte aurait dû sortir. Maintenant, il est temps qu'on puisse l'examiner. Il faut qu'on avance.
Le ministère des Relations avec le Parlement se donne jusqu'à dimanche pour trancher, mais un conseiller dément déjà toute manœuvre dilatoire sur la fin de vie. Convaincu qu'in fine, le calendrier ne bougera pas, il rappelle quand même que s'il se trompe, on ne parle là que d'un report d'une semaine.
Rosalie Lafarge, plus de 4000 personnes sont attendues ce soir au Dôme de Paris pour un colloque intitulé « Pour la République, la France contre l'islamisme ». L'événement doit commémorer les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité, mais aussi les attentats islamistes de mars 2012 à Toulouse et Montauban. Les organisateurs appellent à faire du combat pour la laïcité et les valeurs de la République la grande cause nationale pour combattre l'islamisme. En guise de porte-voix, de nombreuses personnalités ont été conviées à l'événement, mais la présence de deux membres du gouvernement interroge une partie de la classe politique. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et Manuel Valls, ministre des Outre-mer, vont prendre la parole sur scène à l'invitation d'une jeune structure Agir Ensemble, structure qui soulève, Jeanne, quelques interrogations.
Oui, c'est une toute jeune structure née au lendemain des attentats du 7 octobre. Ce n'est ni un parti, ni une association. Non, son statut reste pour le moment assez flou, tout comme ses objectifs. Impacter l'opinion publique, constituer un réseau puissant, peut-on lire sur leur site. Ce qu'on connaît en revanche mieux, c'est son président Arié Bensemoun, qui est aussi directeur exécutif d'Elnet. Elnet, c'est une ONG, ou plus clairement un lobby pro-israélien dont la branche française se donne pour mission de développer les relations entre la France et l'État d'Israël en organisant par exemple des voyages pour les parlementaires. Depuis 2017, sur les 129 voyages de députés et sénateurs en Israël, 99 ont été pilotés par l'ONG selon un décompte réalisé par Mediapart. Un degré d'influence qui questionne au sein même de la classe politique. Un outil de propagande du gouvernement israélien, oui, assume un sénateur socialiste. L'accusation a toujours été réfutée par Arié Bensemoun, lui-même la cible de nombreuses critiques pour ses propos sur le conflit israélo-palestinien, comme en décembre 2023 sur Radio J.
Où sont les infrastructures civiles à Gaza, puisque le Hamas est partout ? Personne n'est dupe, tout le monde le sait. Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas. Tous.
C'est enfin la présence ce soir aux côtés de Bruno Retailleau et Manuel Valls de plusieurs structures partenaires de l'événement qui interrogent. Deux d'entre elles reçoivent notamment des financements du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, dont le journal L'Humanité a récemment révélé les accointances avec l'extrême droite.
Jeanne Serrin, merci. Les livreurs qui travaillent pour les plateformes de livraison de repas sont exposés à des risques importants, risques d'accident, mais aussi risques pour leur santé mentale. Des syndicats l'avaient déjà affirmé, mais l'alerte émane cette fois d'une agence de l'État, l'ANSES. L'agence de sécurité sanitaire s'est penchée sur les risques liés à l'activité des 71 000 livreurs indépendants travaillant par exemple pour Uber Eats ou pour Deliveroo. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
L'ANSES pointe notamment ce que l'on appelle le management par algorithme. Un livreur en deux roues peut travailler pendant des mois sans jamais parler à un responsable humain, Diane.
C'est le logiciel qui va lui dicter en permanence où se rendre et dans quel délai, la plupart du temps. Il ne reçoit aucune explication sur les règles d'attribution des courses et sur les modalités de rémunération. En cas d'accident de la route, le livreur peut le signaler à sa plateforme, mais il recevra la plupart du temps un message de réponse automatique. Tout cela a un coût pour la santé de ses travailleurs, explique Thomas Bayeux, chef de projet socio-économique à l'ANSES.
Ça conduit à une perte d'autonomie et une marge de manœuvre réduite pour le livreur. Et l'ensemble de ces éléments conduisent à une accélération du rythme pour le livreur, une intensification du travail, avec un risque accru d'accident, mais c'est également des conséquences en matière de santé mentale avec des situations d'épuisement, du burn-out, de la dépression, de l'anxiété pour le livreur.
Ce rapport de l'ANSES vient répondre à une demande de la CGT, le syndicat qui avait saisi l'agence à ce sujet il y a 4 ans. Ludovic Rioux de la CGT Transport voit dans ce rapport l'occasion d'agir.
Ce qui est intéressant avec ce rapport, c'est qu'il vient objectiver un certain nombre de faits et de réalités. Donc, du coup, ça vient montrer que c'est l'organisation du travail elle-même qui accroît l'accidentologie au travail, qui accroît les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les maladies urogénitales, et qu'on n'est pas face à un hasard de l'organisation du travail, mais qu'on est bien dans un modèle économique délétère. Et ça, c'est une agence de l'État qui le dit.
Le syndicaliste demande donc l'application des recommandations formulées par l'ANSES, en particulier le renforcement de la législation. L'Union européenne a d'ailleurs adopté à l'automne une directive pour protéger les travailleurs de ces plateformes et la France a 2 ans pour la transposer dans le droit national.
Diane Berger, l'État condamné pour carence en matière d'hébergement d'urgence. C'est une décision rare qui est tombée aujourd'hui. Elle provient du tribunal administratif de Grenoble. L'État va devoir rembourser plus de 76 000 euros au centre d'action sociale de la ville. Une somme qui correspond aux frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille qui aurait dû bénéficier d'un dispositif d'accueil d'urgence. Grenoble, piloté par les écologistes, avait mené une action collective contre l'État avec plusieurs autres villes, dont Lyon, où le collectif Jamais sans toit organise un rassemblement à quelques jours de la fin de la trêve hivernale. Et vous êtes sur place, Mathilde Imberti.
À quelques jours de la fin de la trêve, le 1er avril, le collectif Jamais sans toit, collectif citoyen, appelle à ne pas procéder aux expulsions de 2 sites, une école désaffectée et un immeuble HLM inoccupé, dans lesquels se sont abritées quelques 140 personnes, des familles avec enfants. La ville de Lyon a accepté de laisser ouverte l'ancienne école cet hiver, mais elle lancera une procédure d'expulsion, craint le collectif. Or, le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé. Il n'y a pas moins de 400 enfants sans toit dans la métropole lyonnaise, 200 dans la seule ville de Lyon. C'est-à-dire 5 fois plus en l'espace de 3 ans, 2 fois plus que l'an dernier selon le recensement de Jamais sans toit. Les citoyens pallient, plus de 20 écoles sont restées occupées cet hiver à Lyon. Les enfants qui y sont scolarisés viennent y dormir. Le collectif parle d'un épuisement collectif et aimerait que la ville s'engage à ne pas expulser les familles. La ville de Lyon, de son côté, renvoie à la responsabilité de l'État chargé de l'hébergement d'urgence. Elle s'était associée d'ailleurs à la procédure collective avec la ville de Grenoble qui a abouti aujourd'hui à la condamnation de l'État.
Mathilde Imberti, à Lyon pour France Culture. Le plan de réintroduction du grand tétras dans les Vosges fait encore débat. La justice a étudié aujourd'hui un recours d'associations environnementales opposées à la continuité de l'expérimentation. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges porte le projet de réintroduction du grand tétras, donc le plus gros oiseau terrestre sauvage dans le massif vosgien. Mais l'an dernier, 9 oiseaux capturés en Norvège ont été introduits dans cette zone et seuls 2 sont encore en vie, un coq et une poule. Le bilan de l'opération en l'état est donc négatif aux yeux des associations qui appellent à suspendre cette opération. Météo France prévoit du soleil demain. Il s'imposera toute la journée, sauf sur les Pyrénées qui resteront sous d'épais nuages et de petites pluies. Au petit matin, il fera entre 0 et 4 degrés sur le nord-est, 3 à 12 degrés ailleurs. Les maximales varieront de 14 à 18 degrés en général, de 17 à 22 au bord de la Méditerranée.